Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec des si, comme je l'ai dit autrefois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Jamal.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz. Et c'est la deuxième heure de l'after du samedi soir. Bien sûr, les drôles de dames arrivent dans un instant. Le débrief de Marseille-Angers 0-0. Mais on finit sur les Verts, messieurs. L'AS Saint-Etienne, on accueille Mickaël au 32-16, supporter des Verts. Salut Mickaël.
Salut les gars.
Bienvenue à l'after, Mickaël. C'était pas brillant, mais ça fait quand même du bien, j'ai envie de te dire.
Bah oui, ce qu'on va retenir, c'est surtout les trois points.
Ouais.
Parce que sinon, dans le jeu, c'était pas terrible, hein, c'est poussif. Le point positif, c'est le retour de Kadri qui, je trouve, qui est plus affûté qu'avant. je trouve que ça va beaucoup mieux. Mais pour notre problème, c'est que voilà, il y a derrière, je trouve que c'est quand même assez fébrile, surtout en fin de match où vraiment on a voulu gérer le score, mais voilà, ça fait X temps qu'on n'arrive pas à gérer un résultat.
Mmh.
Et le souci, c'est que devant, il faudrait aussi recruter un avant-centre parce que on tue pas les matchs, en fait. On veut pas tuer les matchs, et voilà. Bon, le retour des blessés font du bien aussi, hein.
Bah, Jabonga qui est revenu, Juste, Mickaël, tu sais, oui. t'es juste le quatrième club, à qui on dit aujourd'hui qu'il faut recruter un attaquant, hein. Dans la première heure de l'after, on l'a déjà dit, on l'a dit pour Dijon, on l'a dit pour Amiens, on l'a dit, tu sais, tous les clubs aujourd'hui veulent un attaquant.
Ah, bien sûr. Mais le souci, c'est que.
Bah, vous aviez Beric, mais vous l'avez laissé partir.
Et ils ont, notre ami, l'ancien Dijonais, là, donc ils essayent de se séparer, mais ils n'arrivent pas du tout à lui trouver un point de chute.
Beric, c'est parti.
Il y a Charles Labi. Il fait des bons matchs, Charles Labi, mais le problème, c'est qu'il a toujours pas marqué.
Si, il a marqué un but, je crois.
Il a marqué un but, en coupe, c'est
un but. En
coupe de France. Mais en championnat, il a toujours pas marqué. Il lui manque ça. Après, il est jeune, il fait partie de sa génération de la Gambardella qui est assez extraordinaire, mais c'est quand même des jeunes joueurs.
Bien sûr, il faut laisser le temps.
Belkedi, Mabi et compagnie, ça viendra des très bons joueurs. Mais il faut prendre son temps.
Vas-y, Mickaël.
Ouais, le souci, c'est que c'est des jeunes joueurs. Et cette année, ça sera. Voilà, je pense que c'est une année de transition. En tous les cas. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi à Claude Puel.
Ouais.
Qui est là, vraiment, je pense, pour du long terme. Je pense que cette année, il n'a pas choisi les joueurs. Et les joueurs sont c'est pas les siens. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Donc le mercato d'hiver, je sais pas si on va se renforcer plus que ça. Je sais pas du tout.
Je pense pas, Mickaël.
Ouais, je pense que ça va être trop juste.
C'est quand même un objectif important aussi.
Vous essayez de prendre un latéral là, apparemment qui joue en N2, je crois.
Oui. Mais bon, après, je sais pas ce qu'il vaut vraiment réellement. Hein. Je le connais pas.
Bah non, ouais.
Donc c'est un peu le mystère. Mais voilà, j'espère vraiment que cette année, c'est une année de transition.
Ouais, c'est ça. Mickaël, il faut l'accepter. T'es 14e de Ligue 1, t'as 28 points, tu vas te maintenir, a priori, sans trop de soucis.
Oui,
et effectivement, faudra être plus exigeant avec Saint-Etienne l'été prochain.
De toute manière, le problème, les gars, de cette équipe, c'est que depuis que Puel est arrivé, on va lui laisser du temps, on sait qu'il est là sur le moyen terme, mais c'est qu'il faut dire la vérité, l'ambiance au sein du groupe est totalement délétère. Entre Claude Puel
au sein du club et de l'environnement également.
Exactement. Entre Claude Puel et la majorité du vestiaire, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre la porte. Regardez l'interview et l'échange de Colo avec Puel. La réponse de Colo à Puel dans l'équipe, Puel qui lui répond en conférence de presse, ça part un petit peu dans tous les sens. Yann Mvila qui a un moment la direction et Claude Puel voulait tout simplement le mettre à pied, le renvoyer pour le licencier. C'était dans les tuyaux. Il y a quand même une ambiance qui est pas facile à gérer.
L'ambiance entre dirigeants et supporters.
L'ambiance entre dirigeants, tout simplement.
Oui, qui est critique entre dirigeants et supporters. Caiazzo qui est conspi en permanence.
C'est ça, Nico. C'est un club qui va mal.
Alors, il a du boulot, quoi.
Ils avaient tout pour bien faire cette saison avec, partir sur la bonne dynamique de ce que Gasset avait fait. Ils ont fait le mauvais choix en choisissant Ghislain Printemps. Dont acte. Mais maintenant, il faut tout reconstruire. Et de toute manière, c'est un peu dommage parce que cette équipe-là, elle avait quand même une base sacrément intéressante. Quand tu la voyais en début de saison, tu regardais les joueurs, tu regardais les recrues, tu disais, bah écoute, Saint-Etienne va jouer encore le top 5. Et voilà, patatras. Il y a le seul choix d'Islain Printemps qui a tout cassé. Maintenant, faut assumer et faut renouveler considérablement cette équipe.
Ouais, Kevin et après Mickaël. Le souci qui va se poser pour la Saint-Etienne, même en se projetant un peu, mais en arrivant à cette intersaison, parce que ça se prépare dès maintenant, hein, l'intersaison, hein, Mickaël, c'est tout de suite, là, c'est février, mars, avril, il va falloir prendre des contacts avec des joueurs, il va falloir aussi prendre des contacts avec des clubs, voire malheureusement peut-être des agents pour se débarrasser d'un tel ou un tel, mais ça va pas être facile, parce qu'il y a des bons salaires à la Saint-Etienne, il y a une grosse masse salariale, et donc forcément, on le voit avec Certic à l'OM, on le voit avec des joueurs dans pas mal de clubs.
Tout de suite. Les salaires, ils sont pas énormes.
Je te parle de la relation salaire niveau du joueur. Louis Diony, il faut s'en débarrasser. Mais s'il peut pas partir.
Non, Kevin, il y en a aucun. Alors il y a plus salarié cap.
Qui veut Diony avec ce salaire.
Je te dis, ils ont plus le salarié cap. Mais d'après ce que on va vérifier. Nos tweets nous l'ont envoyé. Mais les salaires fixes sont pas très importants. Par contre, ils ont des primes énormes.
Ouais, mais ça c'était avant.
Non, c'est toujours le cas. Ouais. Regarde le salaire par exemple de Yohan Cabaye ou de Mathieu Debuchy, c'est pas énorme.
Non, mais eux c'est pas pareil. Eux c'est des joueurs qui ont déjà fait leur carrière.
Même Johnny, je crois qu'il est à 80, 90.
Ils sont venus au moins autant pour le projet. Ouais, mais 80, 90. Qui est-ce qui donne 80, 90 aujourd'hui en Ligue 1 ? Il y a un joueur qui joue pas.
Un pigeon en Angleterre.
Tu vois ce que je veux dire, Mickaël ? Moi mon propos c'était juste de dire, il va falloir laisser peut-être Claude Puel les manettes. Est-ce qu'il va vouloir les prendre? Ça, je ne sais pas. Maintenant, avec une direction qui s'entend pas vraiment avec ses supporters, on ne sait pas s'ils sont pas en instance de départ, on ne sait jamais à Saint-Etienne. Cette instabilité ambiante, en tout cas, je souhaite bonne chance à celui qui va prendre les décisions, donc à Claude Puel, parce que ça va être un sacré travail.
Mais les décisions, il a commencé à les prendre en mettant côté un bon nombre de joueurs. Il envoie des signes très forts. C'est Charles Labie quand même qui a 19 berges, qui est titulaire à la pointe de l'attaque.
La direction
le suit. C'est qu'il y a ils le suivent. Ils le suivent. Du moins une partie de la direction.
En tout cas,
même il y a une sorte de consensus autour de lui. Après, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe là, c'est que et qui est fortement à valoriser, c'est leurs jeunes. Alors comme on dit sur Lyon, il faut pas que tout tourne autour d'eux. Mais les Madi Camara, les Ben Kedim, les Charles Labie, ceux qui ont vraiment fait une très belle Gambardella, cette génération-là qui est hyper intéressante, ça peut représenter le présent après. Pour les performances sportives et ça peut représenter aussi un beau potentiel de vente pour après.
Faut pas trop en attendre des jeunes justement, parce que si on en attend trop, après on peut être déçu aussi.
C'est ce que je te dis, Mickaël.
Je pense que surtout vraiment se débarrasser déjà, pour moi, voilà, comme dit Kevin, des gros salaires qui pèsent énormément.
Et oui, ça, je vais pas l'oublier.
Moi, en plus, voilà, pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air, on va dire.
Il n'y a pas des gros salaires, je suis devant là. Il y a Yann Envila. T'as un gros salaire, c'est Yann Envila et Wahbi Khazri.
Combien, vas-y, envoie.
210 brut.
C'est quoi tes sources là?
France Foot, je crois, qui publie le salaire. Il y a Stéphane Ruffier qui, lui, certes, il le mérite, il est à 180. Et après, quand c'est les Debuchy et compagnie, c'est à 100. C'est à moins de 100. Ouais, ouais. Johnny, il est à 90.
Oui, mais pour Saint-Etienne, c'est beaucoup. C'est trop.
Merci, Mickaël. On va appeler 32-16.
Bonne soirée, merci.
Salut Mickaël.
Excellente soirée à toi évidemment. Tiens, première décision importante de Puel à Saint-Etienne. Cette semaine, il a demandé à tous ses joueurs de changer de semelle. Nouvelle semelle, se chausser différemment pour éviter les blessures. Beaucoup de blessures, notamment des problèmes d'aponévrose, une tendinite.
Ouais, mais ce management-là, quand même, il est difficile parce que.
Non, mais il est bon, Puel, tu vois, le moindre détail, quoi.
Ouais, mais le moindre détail, mais moi, je te dis que moi, j'étais un joueur de foot et je détestais avoir des semelles orthopédiques. Voilà, je supportais pas ça. Donc s'il y a un joueur du groupe qui le supporte pas, va falloir qu'il le fasse parce que le coach l'a dit. C'est pour ça qu'il reste pas longtemps dans certains clubs.
Voilà pour l'AS Saint-Etienne, désormais 12e de Ligue 1. Tu dis une bêtise d'ailleurs. Saint-Etienne est désormais, messieurs, 12e de Ligue 1 grâce à sa victoire avec 28 points au compte, 14e de Ligue 1, 28 points au compteur. Marseille-Angers, 0-0. Je vous préviens, beaucoup d'appels au 32-16 pour parler de l'OM, bien sûr. Marseille 0-0. Marseille qui reste bien sûr 2e de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Rennes, même nombre de matchs. 42 points pour l'OM, 37 pour Rennes, 33 pour Montpellier, 4e. J'accueille Maxime au 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir et bienvenue, Maxime.
Bonsoir à tous.
Salut Maxime.
Bon, tout à l'heure, on s'est appelé avec Jonathan. Toi, tu m'as dit, en tant que supporter marseillais, puisque...
Je l'assume.
Tu l'assumes complètement, tu n'es pas journaliste.
J'ai parié 20 balles sur le fait que c'était soit nul ou Angers.
Et tu les sentais mal. Ouais. Maxime, est-ce que tu t'attendais à un match compliqué, on rappelle, sans Payet?
Ben, forcément. forcément, on voyait très bien qu'on avait, il nous manquait le monsieur plus pour marquer un but. Forcément, ça manquait de talent et ce côté imprévisible qu'on a chez uniquement ce joueur-là, qui est Payet.
Mais ça tient qu'à Payet à Marseille, en fait, pour la créativité?
À deux choses.
Que tu me dis?
À deux choses.
Vas-y, Maxime, après Jonathan.
C'est la créativité, mais c'est aussi ce côté le joueur qui fait la différence sur une demi-occasion. Ce côté imprévisible, c'est la créativité, mais c'est aussi la capacité de pouvoir marquer un but sur une demi-occasion aussi, quoi.
Et réguler le tempo du match aussi. C'est important.
Et qui plus est, fait, ouais. Forcément.
Mais il y a aussi, il faut le dire, l'absence de Bouba Camara, qui est quand même assez préjudiciable, parce que tu avais trouvé un bon équilibre au milieu de terrain qui permettait à Sanson et à Rongier d'apporter beaucoup offensivement aussi. Quand Strootman est là, il est un petit peu moins sûr et t'as l'impression que les deux sont un petit peu se réfrènent un petit peu, même si Valentin Rongier a encore fait un très gros match ce soir. Mais ces deux absences sont extrêmement préjudiciables.
Il a fait un grand match, mais le problème c'est qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver face au gardien, et à chaque fois qu'il est face au gardien, il n'est pas
Il s'est cagué.
Il a un problème d'efficacité, Valentin Rongier. Tiens messieurs, écoutons. Reste avec nous Maxime, écoutons les propos de André Villas-Boas en conférence de presse juste après le match nul de l'OM face à Angers. Il parlait de l'absence de Payet.
Barcelone est Messi dépendant, la Juventus est Ronaldo dépendant. Si on est Payet dépendant, on est Payet dépendant. Mais ne m'inquiète pas, tous les bons joueurs font la différence pour nous. Mais non, j'ai pas problème d'assumer une chose comme ça. Et oui, il nous manque parce qu'il est un joueur que précisément peut trouver le dernier passage et le but. Mais il était suspendu aujourd'hui et les gars qu'on était dans la surface ont fait un match de courage, de patience.
Voilà. Avant que tout le monde s'enflamme, notamment des anti-marseillais éventuels, il compare pas Ronaldo et Messi à Payet. Il compare des situations en fait. Hein, l'importance d'un joueur dans un effectif.
Voilà. L'importance d'un joueur dans un effectif. Je regarde la composition de l'OM et l'effectif de l'OM. Alors on va parler quand même des nations qui sont allées top 10 mondial. Combien il y a de joueurs à Marseille qui ont une chance un jour de rentrer dans une d'être titulaire ou de jouer dans une nation, d'être international mais dans une nation
va
top 10
plus loin. On va donner le banc. On va donner le banc, c'est encore plus parlant. Sur le banc de Marseille cet après-midi, Valère Germain, Raoui, voilà. Marley Aké, Montpellier, Lucas Perrin, Ali Mohamed et Florian Chabrol.
Je vais même plus loin, Jonathan. À part Steve Mandanda, dans l'équipe type de l'OM, il y a personne. Il y a Strootman
Camara,
à une époque.
Camara, il jouera dans un grand club, Camara.
Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'il sera international français titulaire?
Je pense.
On n'en est pas sûr.
Un jour viendra. Il a 19 ans.
Mais d'accord.
Chacun son tour. Kevin et Maxime.
Juste Maxime. Moi, je te parle de l'équipe de l'Olympique de Marseille 2019-2020. Ça, oui. Tu vois ce que je veux dire?
On est dans un débat sur
Marseille.
Attendez les gars. Chacun son tour.
Finis
Kevin et Maxime.
Tu me laisses finir. On est dans un débat Marseille-Angers en 2020. On n'est pas sur Marseille-Lyon en 2024. Tu vois ce que je veux dire?
Vas-y.
Donc je te dis, pour moi aujourd'hui, il n'y a que Dimitri Payet et Florian Thauvin qui sont les deux joueurs de cet effectif qui ont un niveau de top européen. Et donc forcément, quand il y en a un des deux qui est là, ça va. Mais quand les deux sont absents, et ben c'est une équipe d'Angers bien en place où
on est d'accord pour dire que le travail, en fait, là où je veux en venir, en fait, sur ce match-là, parce qu'au final, l'analyser c'est compliqué. Angers a pas vraiment fait preuve de bonne volonté. Ils auraient pu gagner en fin de match. Marseille a manqué d'imagination. C'était un match qui était soporifique. On n'a pas grand-chose à dire dessus. Mais en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que quand tu regardes en fait la composition de cette équipe-là, quand tu regardes effectif qui est à la disposition d'André Villas-Boas, là t'as raison Kevin, il faut souligner qu'André Villas-Boas, là d'être deuxième, même si le niveau de championnat est faible, c'est incroyable, il fait un travail qui est magnifique. Mais là où ça m'énerve un petit peu, c'est que cette équipe, bon alors ok, t'as Florent Thauvin, ton meilleur joueur qui est Florent Thauvin, c'est pas Dimitri Payet, c'est Florent Thauvin le meilleur joueur de l'OM.
C'est un autre débat, on le garde pour un autre jour.
Par contre ce qui m'agace, c'est que quand tu vois que cette équipe, que l'équipe dirigeante a dépensé 200 millions d'euros pour arriver à avoir un effectif où tu as un banc composé de minots, où tu as un joueur qui est absent et où ton entraîneur n'a aucune autre solution que de faire jouer le pauvre Maxime Lopez, ailier et Radonjić titulaire, tu te dis que t'es vraiment dans la cour des miracles. Donc ce match-là, écoute, franchement, si on le prend après le match, tout le monde était un petit peu énervé, tu te dis ça casse un petit peu la série, t'avais l'occasion de reprendre un petit peu d'avance sur Rennes, c'est un petit peu frustrant. Mais quand on regarde les circonstances, quand on regarde l'opposition de style quand j'ai opposé, quand on regarde que Dimitri Payet n'était pas là, au final, est-ce que dans la grande image, dans le grand scénario de cette Ligue 1 là, peut-être que ça sera un bon point.
Mais bien sûr,
l'objectif c'est d'aller en Ligue des Champions. Après, on aura le temps de discuter sur le fait que voilà, on veut, on veut faire des compétitions avec les top clubs européens. Pour le moment, on n'en est pas là. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme par rapport à l'historique du projet, forcément, on en est là, quoi.
Non, mais je trouve, Maxime, attends, Kevin, je donne la parole. Là où tu as raison, Kevin, c'est qu'effectivement, sur la Ligue des Champions, c'est dans, grosso modo, 8 mois, ouais, à peu près. C'est que là, tu as un effectif limité. Un effectif qu'il faut quasiment changer 70% de ton effectif. Si tu veux faire au moins bonne figure en Ligue des Champions.
Mais Nicolas,
le chantier est considérable.
Mais attends, je coupe tous. Si Marseille, et là je vous le dis, hein, si Marseille va en Ligue des Champions l'année prochaine, ça me fait mal au cœur de le dire, hein, mais s'il n'y a pas un miracle d'argent qui tombe du ciel, Marseille joue la relégation la saison.
Il n'y aura pas de miracle.
La relégation, je ne pense pas, vu l'état de la Ligue aujourd'hui. Mais le truc, c'est quoi? Marseille est deuxième de Ligue 1. Mais en vrai, au final, si Lyon avait fait le travail, c'est Lyon qui structurellement, qui au niveau de l'effectif, au niveau de la qualité, doit être deuxième, et Monaco doit être troisième. C'est clair. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte.
C'est un miracle.
Villas-Boas est un magicien.
Il tire le meilleur de cet effectif.
C'est un magicien.
Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe qui sont un petit peu, on a tendance, je sais pas, tout le monde les raille un petit peu. Mais par exemple, Maxime, t'es toujours là. Je sais pas ce que tu penses, mais je trouve que Tchelle Tatsar, cette saison, il fait quand même une très grosse saison. Il montre qu'il a un très gros potentiel. Je pense qu'il ira dans un club qui aura un avenir européen. T'as parlé de Bouba Camara, ça, on est d'accord. Alvaro, c'est un vieux briscard. Il a un niveau, je te dis pas, niveau
national,
mais c'est quand même très, très bon. Je pense qu'au milieu de terrain, quand Bouba Camara est au milieu de terrain, il a le niveau d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Valentin Rongier, il est encore jeune, il a 24 ans. On verra jusqu'où il va aller, mais c'est un très bon joueur. Il y a quand même des bons joueurs dans cet effectif-là. Mais le problème, c'est le nombre, c'est la quantité. T'es trop court en quantité.
Oui, mais pour la Ligue 1,
un énorme budget,
un
maximum.
Et oui, c'est ça. Ouais.
La Ligue 1, ça suffit. Il y a personne en Ligue 1 à part Paris.
Ah, ça suffit, mais là, regarde, t'as Camara et Sarr qui sont suspendus, t'as Payet qui est suspendu. T'es un peu dans la merde quand même. Donc même pour la Ligue 1, ça suffit pas tant que ça, hein, Maxime. Hein.
Merci, Maxime.
Ben merci à vous de m'avoir
invité,
surtout.
Merci. Tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Avec plaisir. Qui...
Allez, il y en a que Laurent également qui patiente depuis 15 bonnes minutes, supporter Marseille au 32-16. Salut Laurent, bienvenue, bon merci de ta patience.
Salut Laurent.
Vous m'entendez bien ou pas?
Très bien. Bon, parfait. Tu penses quoi de ce débat-là sur la qualité de l'effectif de Marseille? En fait, pour schématiser les gars, ce qu'on peut dire là, c'est que Marseille redevient une équipe ordinaire, ou un peu plus quand même. Quand Payet n'est pas là.
Et ajoute une chose avant de laisser la parole à Laurent, il faut quand même le reconnaître, dans le contenu depuis la reprise, c'est pas génial. Non, avec Jean Payet, c'est le contenu, c'est pas beau.
Vas-y Laurent.
Moi, si je peux me permettre, faut dédramatiser un petit peu là ce match. Tu vas gagner à Rennes, alors tu dois jamais gagner. Tu gagnes 3-0 contre en Coupe de France, alors que c'est pas le reflet du match.
Tu sors très lisse à côté de
toi. Tu peux faire nul, c'est normal. Je veux dire, l'effectif, comme il dit toujours Daniel Riolo, faut pas se poser la question qu'est-ce qu'on va faire avec les champions l'année prochaine. Et là, du coup, c'est qu'on a vraiment un effectif qui est comme il est. Ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu, on a essayé de marquer. Moi, en fait, j'ai un petit coup de gueule à faire. C'est Angers, ce qu'ils ont fait ce soir. C'est affreux pour le spectacle. Et j'aimerais qu'au lieu qu'on parle de Marseille, ce soir, on pointe du doigt ce qu'a fait Angers, en fait. Parce qu'au final, s'ils avaient joué, ben, tu fais 1-1 ou 2-2, tant que tu perds même. Ouais, mais ouais. Du coup, tu as du spectacle. Il y a un allant qui est bon pour Angers, pour Marseille. Et voilà, je ne veux pas casser le.
Non, mais
tu as
raison, Laurent. Tu sais,
je parle d'Angers ce soir un petit peu. Ouais. Parce que si le niveau de la Ligue 1, je te coupe, excuse-moi, il en est où il est. C'est quand même. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a l'OM 2019. Voilà, on n'est plus Paris. Angers, qu'est-ce qu'ils viennent jouer comme ça au Vélodrome?
Ouais, mais j'y ai pensé, Laurent, je t'assure que j'y ai pensé pendant le match. Et je me suis dit quand même, Angers 7e, qui est quand même intéressant cette saison. Ah, ils viennent, déjà, ils sont pas bons. Parce que c'était d'ailleurs leur entraîneur adjoint pendant le match qui a été interviewé, qui a dit qu'ils avaient été mauvais. Et on
il a dit Stéphane Moulin après le match, on n'a pas joué à notre niveau.
Voilà, ils n'ont pas été bons. Mais ils n'ont pas été bons, pourquoi? Ils n'ont pas été bons parce qu'à Marseille, sans Payet. Mais à Marseille, avec un bon Sanson, j'ai trouvé. Un Marseille qui a été, certes, pas flamboyant, mais qui a quand même. S'il y a une équipe qui mérite de gagner ce match, ça reste quand même l'OM. Même s'il y a eu 2-3 occasions en contre pour Angers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas non plus dénigrer ce point pris. comme a dit Jonathan, comme on a déjà dit, ça reste un bon point face à une équipe très correcte de Ligue 1 qui est venue en plus pas forcément pour jouer et pour jouer en contre.
Mais en plus, Laurent et Kevin, donc, c'est pas moi je leur taperai pas dessus à Angers parce que c'est non, ok, c'est pas beau ce qu'ils ont fait.
Ils jouent avec leurs armes.
Mais c'est pas une équipe qui le fait systématiquement.
Je râle pas en mode supporter marseillais. Là, en fait, à un
je comprends
donné,
ce que tu veux dire.
Au bout de 20-25 minutes, j'étais devant ma télé. Je voyais que nous, on n'y arriverait pas, qu'on n'a pas, on n'a pas les éclairs de génie que peuvent avoir Paris, même Monaco ou Lyon, des fois. Mais on les a eus précédemment.
Ouais, ça, c'est la mentalité Ligue 1.
J'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage. Tant ils jouent, ils en mettent un. Nous, on égalise après, ça fait le même résultat, mais.
Mais Laurent, franchement, c'est dur. Je te comprends, mais c'est dur de dire ça sur Angers qui n'est pas non plus ultra coutumier du fait. Ils le font de temps à autre.
Cette année, mais là, j'ai vu Moulin au Canal Football Club. Il disait oui, c'est vrai, je joue beaucoup comme ça. Ça me permet d'avoir des résultats. Je me mets à leur place, moi. Hein. Mais comme là, je vous dis, on oublie que je suis supporter de l'OM. Ça m'a vraiment embêté parce que depuis que j'ai votre chaîne, d'ailleurs, je vois beaucoup de matchs anglais et tout. Et ben, au final, ça fait 2-2. Mais t'as passé un bon moment, mais je pense que faudrait qu'on souligne un peu plus et qu'on se dise pas hop, chien.
Bon, allez, ça va, on t'accorde.
Voilà. C'est
et les gars,
pas
est-ce
plus,
qu'on...
pas moins.
Bah, tu sais, voilà, c'est là, tout à l'heure, on parlait du champ lexical de la Ligue 1. Faudrait faire un dictionnaire Ligue 1, bloc équipe. On est bien en place. C'est cohérent ce qu'on propose.
Ouais, ouais. Ils sont venus défendre le point qui leur avait été accordé avant le match.
Ouais, est-ce c'est que... ça. Ou quoi d'autre, pour... quoi d'autre comme expression attends, sur la
ça
Ligue 1.
C'était Galtier, ça. Ouais. Est-ce qu'on a des nouvelles du Psy El Melali, là?
Eh non.
Ça, c'est une tuile pour eux. Parce que c'est vraiment un joueur qui était en pleine progression, qui était
très décisif. Non, mais il est là, hein, il a joué. Hein.
Ouais, mais oui, mais
il s'est blessé, on verra. Si,
et sur, grave, sur les images, c'était pas beau. Hein.
Il avait une grosse attelle.
Ouais. C'était pas beau, parce que c'est involontaire, mais à ma vie, il lui tombe en plein sur la jambe. Tu vois sa jambe qui tourne, ça, c'était pas
enfin,
génial.
Enfin, Angers, ils sont contents. Ils sont 8e de Ligue 1 pour l'instant. 30 points, ça se rassurer. Ils pourront essayer de faire un peu mieux sur les 7-8 dernières journées.
Après, maintenant,
prendre des points bonus.
Si on revient sur l'OM, moi, je me demande une chose. C'est, Marseille est 2e. Marseille a accumulé les bons résultats. Moi, je me demande si cette équipe est capable, tu vois, en deuxième partie de saison, de passer la seconde, justement. De passer la seconde vitesse. Parce que les résultats ont été accumulés.
Tu mets ta vitesse,
il
n'y
a pas eu, il y a pas, ouais, mais là, le problème, c'est que t'es sur une série de matchs où t'as gagné, mais dans le contenu, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça aurait même dû, tu vois, au match, je pense au match de Rennes, jamais tu dois le gagner, mais tu finis par prendre les 3 points. T'as ces débuts poussifs en coupe, ça, je vais les mettre un petit peu de côté. Mais dans le contenu, ça fait un moment que j'ai pas vu Marseille, convaincant, serein, sûr de ses forces. Alors, il va avoir le retour de Florent Thauvin, il a repris la course, là. Donc, je pense que d'ici un mois, il pourra peut-être réintégrer le groupe. Apparemment, c'est ce qui se dit. Mais cette équipe a vraiment besoin, d'une part, de récupérer Dimitri Payet. Elle a vraiment besoin, et là, Villas-Boas, on a loué son travail, mais je pense qu'il a lui aussi besoin de réfléchir à 2-3 alternatives. Parce qu'on a bien vu que Pippa Benedetto, et quand il est isolé comme ça, tout seul, ça va pas. Et qu'à partir du moment où justement il repasse en 4-4-2,
il a reçu aucun ballon aujourd'hui.
Ouais, mais Kevin, quand t'es passé de 0 tir en 30 ou 40 minutes, quand il remet en 4-4-2, même si c'était brouillon, t'avais des situations et t'as eu des tirs. Donc est-ce qu'il faut pas passer en 4-4-2 dès le début du match?
Je
pense qu'il faut essayer de travailler
au milieu de terrain aussi.
Mais là, non, mais là t'étais serein quand même au milieu. Et après, en plus, t'avais pas Bouba Camara. Donc je pense qu'il y a 2-3 alternatives à trouver. Il faut aussi Villas-Boas. Ouais, mais je pense qu'il cherche. Je pense qu'il cherche parce que franchement, au cours de match, sur les 2-3 derniers matchs, là, je l'ai vu, essayer de changer de système, essayer de jouer à deux pointes, essayer des choses. Et je pense qu'il en a conscience de ça. Donc j'ai quand même confiance en la suite pour l'OM. Mais attention, t'es quand même sur un fil du fait de la faiblesse de ton effectif et de l'incompétence de ton équipe dirigeante.
Merci Laurent. Vas-y Laurent, conclue.
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je pense juste que la clé de cette fin de saison, c'est peut-être un peu grâce à Villas-Boas d'ailleurs, mais si on reste un peu serein, vous avez vu, au stade, ça n'a pas sifflé.
Ouais.
Vous, les
ça
médias,
a poussé
vous
jusqu'au bout. Alors,
trop,
attends.
Vous êtes un peu plus. Un peu moins, comment dire. Vous êtes
c'est
un
parce
peu
que
moins
je suis là
mou.
Ce soir.
Dis-le.
Non, mais je pense que, du coup, ça ne fait pas de crive ou quoi. Il y a eu nul, on n'en parle pas trop.
Une sorte, le climat est apaisé, t'as raison. Alors, il y a quand même une banderole, Laurent, si tu peux me permettre, en avant-match qu'on a vu, banderole du Commando Ultra 84, qui dit enfin un état d'esprit retrouvé, continuez 2020 comme vous avez terminé 2019, mais quels que soient les résultats, notre volonté reste inchangée, direction démission. Héros démission,
bien sûr.
Voilà.
Je trouve que c'est venir enrayer la machine tout seul, mais bon. Après, je critiquerai pas, mais juste c'est pour dire ça.
Ok, Laurent.
Si on reste serein, je pense que c'est bien. Passez une bonne soirée. Merci pour
toi. Toi aussi, Laurent.
Merci
Laurent.
Tu veux. Et toi aussi, t'es un bon,
Laurent. Tenez quand tu veux dans l'after, bien sûr, Marseille qui va jouer cette semaine en Coupe de France, réception de Strasbourg.
Ouais.
Et deux déplacements à venir en ligne, consécutifs, à Bordeaux la malédiction. 1977, messieurs.
C'est pour cette
c'est
année.
C'est pour la bonne année, tu crois?
Moi, je pense que c'est la bonne année.
Enfin, pour Marseille, hein. 43 ans après.
On dit ça tout le temps, mais à chaque fois on se prend les pieds dans le tapis. Donc moi j'en parle même plus.
Saint-Étienne, Marseille, le week-end d'après. Non, en milieu de semaine prochaine, tu vois, en 3 jours.
Alors,
4 jours
c'est bizarre parce qu'on se tape Bordeaux et Saint-Étienne à la suite, on se tape les deux clubs amis qui se lient contre nous. En général,
ouais,
avec les supporters, c'est toujours comme
oui,
ça.
T'as raison, bah, les supporters, les Ultramarines et les Stéphanois sont très proches. Voilà, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. Fred Hermel arrive. Paulo Breitner arrive. Simone Rovera arrive lentement, mais il arrive. Oh, Jonathan McCarthy, quoi? Non, parce qu'il est un peu lent. Ah. Et Kevin Diaz,
on a dit qu'on arrêtait ce genre de remarques. On a dit qu'on arrêtait ce genre de remarques.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Jonathan McCarthy, Kevin Diaz. Oui, Jonathan, nous sommes à la télé également sur RMC Sport News, donc les pieds sur la table, c'est pas ici.
Non, mais j'ai appris une nouvelle. Non, mais j'ai appris une nouvelle hallucinante.
Quoi?
Kevin vient de me dire que Fabregas avait encore 2 ans de contrat à Monaco.
Oui, 2022.
C'est beau, hein.
Je pense qu'il est pas à 80 000 euros par mois, si tu veux, ce garçon, à mon avis. Tu vois.
Ouais. 80 000 euros par semaine.
Eh ben.
Ouais, magnifique. Par semaine, effectivement. Bah ouais, magnifique. Mais c'est
pas lui. Eh ben, moi, je lui tire mon chapeau.
Bah, c'est pas de sa faute, effectivement.
Voilà. Il a raison. Il a mis aucun pistolet sur la tempe pour voir ça. Monsieur Cesc, bravo. Bravo.
Monsieur Chassin-Vegas. Justement, un homme qui l'a connu, qui l'a commenté, est avec nous. Monsieur Fred Hermel est dans l'after et dans la place. Bonsoir, Fredo.
Quel grand joueur. Voilà, chicos.
Mais oui, ce fut un grand joueur.
Bah, excusez-moi, enfin, c'était le faux numéro 9 de la sélection espagnole à 1 euro. Il a marqué des buts importants. Il a marqué notamment un tir au but très important. Ça a été un grand joueur, Fabregas.
Ça a été, on va le passer.
Bah oui, après, on vieillit tous, hein.
Bon, mais attends, il est pas si vieux, il a 32 ans. Fred?
Oui,
mais il a commencé très jeune. Il a commencé très très jeune.
Il a raison.
Il a des kilomètres au compteur.
Il a raison, Jonathan. Mais il y a un truc, c'est que, à un moment, là, les gens sont un peu durs avec lui, mais quand il aura terminé sa carrière, on regardera son palmarès.
Non, mais c'est un monstre, c'est un monstre.
Ça, il y a pas doute là-dessus. Mais là, ce qu'il fait à Monaco, c'est justement parce qu'on a en tête ce qu'il a fait auparavant. C'est pour ça qu'on est très sûr de ses performances.
C'est comme quand tu vas voir, je sais pas, Bob Dylan en concert aujourd'hui. Bah, c'est voilà.
Tout le monde n'est pas Mick Jagger.
Oui, mais bon,
Bob Dylan, c'est terrible, quoi. Ça pourrait vachement
baisser. Tout le monde prend pas des produits, hein, tu sais, aussi, comme Mick Jagger.
Ouais, pour moi, Bob Dylan, c'est trop moderne, quoi. Tu vois, moi, c'est pas la musique que j'écoute, mais pourquoi ça a vachement baissé, Bob Dylan, ça?
Ah, c'est un peu tristoun.
Bah, tu vas le voir sur scène, c'est une catastrophe.
C'est un peu tristoun.
C'est terrible.
J'ai dit, tout le monde n'est pas Mick Jagger. Et Mick Jagger,
voilà, quand t'as été une légende et que tu t'entêtes à continuer, bah, c'est dur, quoi.
C'est ça.
Allez.
Tout le monde ne meurt pas jeune comme Gérard Philippe.
Gérard Philippe, bravo.
Non, parce que moi c'est l'idole absolue.
James Dean, tout ça.
Kurt Cobain, James Dean. Mais Gérard Philippe, bravo, Fred.
Gérard Philippe, c'est l'idole absolue. Et je vais me permettre, je viens de terminer l'œuvre, le livre extraordinaire de Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid. C'est extraordinaire. Ce sont les derniers jours de Gérard Philippe. Il n'y a pas que le foot dans la vie.
D'accord.
Et vous allez, enfin, c'est un livre. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu depuis très très longtemps.
Redis le titre.
Le dernier hiver du Cid.
D'accord, de Jérôme Garcin.
Jérôme Garcin,
voilà,
énorme journaliste, énorme écrivain. Et c'est chez Gallimard et c'est, c'est fabuleux, quoi. C'est de la littérature que j'aime et plein de références culturelles que j'aime. Le site, tout ça. Enfin bref. Voilà.
Fred, bon,
le Barça.
Voilà, un petit événement, un gros événement en Liga. Le Barça a été battu 2-0 par Valence. Certes, le Barça avec un grand gardien, mais un Barça sans idée, Fred.
Bah, franchement, s'il n'y avait pas Ter Stegen ce soir, on parlerait d'un 3-4-0, quoi.
Ouais.
Vraiment. Parce que Ter Stegen, déjà, il arrête un pénalty à 0-0. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort.
Bah ouais. Ter Stegen et l'arbitre, sont très forts.
Alors après, attends, je vais pas. Alors, puisque tu évoques ça, l'arbitre, Reid Manzano, un moment, il y a un contre pour Valence, mais tu sens que ça va se terminer en but. Il y a une faute, notamment Domtiti qui prend un carton, il laisse pas l'avantage, et après il reconnaît qu'il a fait une erreur. Il met ses mains en disant pardon au joueur. Donc au moins un arbitre qui reconnaît sa connerie, franchement moi c'est respect.
Ok.
Tu vois, ce Barça. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. Est-ce que vous avez écouté la semaine dernière? Qu'est-ce que je disais après la victoire du Barça contre Grenade? Que le test c'était quand?
Valence.
Voilà.
Juste avant de te laisser débuter, Fred. Bon, je te fais une petite référence, mais est-ce que ce serait pas le dernier hiver du grand Barça?
Oh, magnifique.
Merci.
Écoute, parce qu'il
avait noté tout, t'as vu, il avait noté.
Je tire pas de conclusion hâtive, mais le problème n'était pas Valverde, le problème c'est Valverde, l'entraîneur. Le problème c'est l'effectif. Voilà, parce qu'en fait, c'est un Barça qui tient grâce au but de Messi et aux arrêts de Ter Stegen. Et aujourd'hui, Messi a fait un très mauvais match, vraiment très mauvais.
Et
Ter Stegen peut pas tout faire tout seul. Donc, en plus, tactiquement, moi, je comprends pas trop ce que fait Setién. Alors, en fait, Setién, ce qu'il fait,
il a dit, il va y avoir du boulot.
Mais pourquoi il met l'anglais sur le banc? Je comprends pas.
Bah, moi non plus, je comprends pas. Parce que petit, il fait un match catastrophique. Vous avez vu le petit sombrero qui se prend là? Setién fait du populisme footballistique. C'est-à-dire, il joue comme le public demande. Sauf que c'est pas le public qui demande. Le public veut jouer comme avec Xavi Iniesta. Sauf qu'il y a plus Xavi Iniesta. Franchement, le Barça a eu 70% de possession, a fait encore 800 passes. Et c'était que des passes quasiment horizontales. Et c'est uniquement quand le Barça a ouvert le score par Maxi Gomez que le Barça jouait un petit peu plus vertical. Je pense sincèrement, et Dieu sait si j'ai aimé ce football parce qu'il a permis à mon deuxième pays, l'Espagne, de gagner 3 titres comme le champion du monde et 2 euros. Mais je pense que le style tiki-taka de passes horizontales est terminé. Et pour en avoir parlé avec une personne du staff de Zizou, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus dans un football de transition très vertical.
Ah oui.
On voit par exemple le succès de Liverpool.
Faut savoir faire les deux.
Ben oui, mais c'est-à-dire que le football, les passes à outrance, le football horizontal à outrance, qui a eu son succès à un moment, hein, rappelez-vous, avec l'Espagne, qui était la colonne vertébrale du Barça, hein, aujourd'hui ne marche plus. Donc, tu dis que c'est Bob Dylan est dépassé, ben le tiki-taka est dépassé. C'est un jeu de vieux, on va dire.
Ouais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 semaines, je t'avais dit que j'ai l'impression, moi, qu'en fait, ce Barça-là, avec ces joueurs-là, en tout cas avec ces anciens cadres, il est même plus entraînable. Dans le sens où tu pourras mettre. C'est eux qui décident, en fait. C'est eux qui décident la façon dont ils veulent jouer. Les supporters qui ont toujours cette fameuse image du grand Barça qui doit jouer en possession. Mais ils ont du mal à se réinventer, tout simplement. Et ça arrive à toutes les grandes équipes.
Hein. Oui, bien sûr. Il y a une Mais sauf que le problème, c'est que la période est un peu longue. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le Real, par exemple, la crise, elle a duré un an avec une saison catastrophique la saison dernière. Là, ça va mieux. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de révolution possible au Barça. Et Valence a totalement mérité sa victoire. Vraiment un très bon Valence avec, et je vais me permettre, puisqu'on n'est pas loin de l'Euro, le match que fait Kondogbia, la manière dont il a mangé Messi.
Oui.
Mais c'est impressionnant.
Mais les deux, Coquelin aussi fait un bon match. Hein.
Coquelin aussi. Ouais. Moi, j'aime particulièrement Kondogbia et je trouve que son apport physique allié avec une vraie technique de sortie de balle, ben, il a été très bon ce soir. À un moment, il a bouffé Messi, enfin, c'était impressionnant. Donc, c'était un match très intéressant de Valence, qui est un candidat, faut pas oublier, hein, Valence... qui tombe contre l'Atalanta.
Candidat au quart de finale. Mais attention, l'Atalanta, c'est impressionnant, Fred. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Simone. C'est imposé 7-0 sur le terrain de Torino ce soir.
Ça va être un super match.
C'est quoi, c'est l'affiche que certains ne voulaient pas forcément voir. Moi, c'est presque l'affiche que j'ai envie de voir.
C'est-à-dire que c'est une affiche qui a l'air assez équilibrée.
Hyper ouverte.
Et moi, je dois reconnaître que j'étais le premier à dire oui, c'est l'Hadès, quelqu'un que j'ai connu hein, du temps du Real Madrid.
Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas convaincu.
Moi, je l'aime bien, c'est un mec très sympathique.
L'homme du président.
Mais c'est l'Hadès, en fait, il met un petit peu, il est pas dogmatique, il est pragmatique, il met un petit peu de bon sens, et puis il a pas essayé de braquer les joueurs contre l'ancien entraîneur, et tout ça. Il a dit, je suis là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. J'ai pas choisi, je suis là, et c'est intelligent. Mais, pour terminer sur le Barça, y a un vrai problème.
Griezmann?
Il a mis un doublé la semaine dernière.
Non, fout que tu fasses insulter.
Fredo.
Excuse-moi, on en parle quasiment tous les week-ends, c'est une réalité, mais là, c'est de pire en pire, t'as l'impression. Attends, Kevin.
Alors, j'ai calculé les passes.
Zéro tir.
J'ai calculé les passes de Messi à Griezmann au dernier match, c'était 3. Vous savez combien de passes a fait Messi? Le Barça fait 800 passes. Combien de passes de Messi à Griezmann aujourd'hui? Une.
Une seule passe. Alors qu'ils sont ensemble, côte à côte, ouais.
Voilà. Et là, franchement, enfin, côte à côte, c'est un système souvent qui est en 4-3-4-3, parce que ce soir c'était quand même très clair. Messi dans l'axe, Griezmann à gauche, Ansu Fati à droite. Mais moi je le comprends. Griezmann en coupe, il a joué en pointe dans un système avec trois attaquants.
Il met 2 buts.
Il a marqué 2 buts. Pourquoi pourquoi, il n'y avait pas Messi qui n'était pas convoqué pour ce match. Pourquoi on n'essaye pas de... Tu vois, parce que quand il y a Suarez, Messi joue à droite.
C'est ce que je te disais, Fred. Alors attention, je ne dis pas que Messi est un problème pour cette équipe. Mais
tu auras des problèmes, parce que attention.
Le correspondant Madrid ne se sent pas responsable des commentaires du consultant parisien. Ouais.
Tu devrais faire un communiqué également, Fred, ce soir.
Fred, je ne dis pas ça. Je dis juste que Messi, dans sa manière de jouer, bien sûr qu'il fait de l'ombre à Griezmann. Et aujourd'hui, mais c'est triste de voir Antoine Griezmann comme ça.
Ah, mais moi, ça me fend le cœur.
J'ai envie d'aller trouver une explication. Sans tomber dans la théorie du complot que Messi ne veut absolument
non,
pas
c'est
passer.
Pas un complot.
Moi, je pense juste
personne
qu'en fait,
a parlé de complot.
Ouais, c'est ce que, ouais,
non.
Mais non, mais je pas, je fais réponse
non, mais
à ce
dont
Fred nous dit, humain, parle voilà. sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, c'est tout simplement que les deux joueurs ont exactement le même profil et qu'ils se marchent sur les pieds. Et que je pense
mais
pas que les deux soient extrêmement compatibles.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Pas beaucoup de complémentarité.
Et pour pas s'entendre avec Griezmann, faut vraiment le chercher parce que lui fait beaucoup d'efforts. Et les grands joueurs, on dit toujours que les grands joueurs jouent bien ensemble. Et moi, je pense, et ça fait 30 ans que je joue à du foot et 26 ans que je suis en Espagne, donc j'ai vu quelques matchs, les grands joueurs s'entendent. Mais il faut que chacun y mette de la bonne volonté. Et j'ai l'impression que dans cette équipe, tout le monde met pas de la bonne volonté.
Ouais, c'est très possible. Tiens, précision, Fred Kondogbia, il sera pas à l'Euro, hein, parce qu'il a choisi la République centrafricaine.
Oui, c'est vrai, c'est
tu
vrai.
Tu vois, il est international.
Et c'est quand même très dommage. Oui, tu as tout à fait raison. Je reconnais cette erreur. C'est vrai parce que ça s'est passé il y a un an à peu près, non?
Ouais, c'est ça. Il a quatre sélections avec la Centrafrique.
Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage pour, avec tout le respect pour Geoffrey Kondogbia, c'est un peu un choix par défaut et c'est dommage parce que vu ce qui se passe en équipe de France avec nos milieux de terrain en ce moment, ce soir, je me dis waouh.
T'as raison. Fred, demain le 15e de Liga, Valladolid accueille le Real, qui peut prendre le pouvoir de la Liga. Je sais pas, hein, ça devrait aller. Le groupe a été donné par Zidane en fin de soirée.
Vinicius n'est pas là. Valladolid a fait match nul à Bernabéu en début de saison. Hein.
Ouais.
C'était pas le même Real, hein. Mais. C'est les échos que j'ai pu en avoir au sein du staff technique du Real, c'est que c'est un match qu'ils craignent énormément. Parce qu'en Espagne tout est compliqué et que Valladolid est une équipe très difficile à bouger, tactiquement très bien entraînée par un ancien joueur Sergio, ancien joueur de l'Espagnol notamment, et que cette équipe elle a privé du Real de 2 points en égalisant à la dernière minute.
C'est le Angers espagnol, t'es en train de nous dire.
Alors Angers, c'est vrai que c'est une équipe historique, mais Valladolid, c'est pas n'importe qui non plus dans le football espagnol.
Mais Angers non plus.
Non, c'est la raison pour laquelle je dis. Attends, Raymond Coppa, excuse-moi, enfin, c'est un ch'ti aussi. Non, je critique pas Angers, mais c'est-à-dire que dans le football moderne, on va dire, Valladolid, c'est pas n'importe qui dans le football espagnol.
Mais ce que tu me dis, c'est que c'est une équipe comme Angers, sérieuse, qui est disciplinée, qui est collectivement organisée, qui est capable de poser des problèmes aux grosses équipes du championnat. Donc c'est le Angers un petit peu.
Donc si t'es pas à fond, tu mets pas Valladolid, quoi.
C'est
ça. Et c'est vrai que le Real a pas souvent profité des faux pas du Real saison.
Fred, des nouvelles de Hazard, Bale notamment. Vinicius n'est pas dans le groupe, hein.
Il n'est pas dans le groupe parce que Zidane fait des choix et il a raison. Et que Vinicius, il s'entraîne pas bien.
Fred, petite question. Tu les sens comment, toi, le Real à l'aube du printemps européen là? Tu sens la dynamique, c'est comment, outre les résultats, l'ambiance, comment Zidane a son groupe en main? Est-ce que tu es optimiste pour les huitièmes là?
Très optimiste.
Real City, les gars.
Pourquoi?
Le 26 février. Hein. Real Manchester City.
Parce que le système défensif du Real, il est très 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 fort. Et qu'en Ligue des Champions, c'est ce qui compte.
D'accord.
Le Barça a la chance également, on verra, d'affronter le Napoli.
Ouais, ça devrait passer contre Naples quand même.
Et Valence Atalanta, on va se régaler. Et Atlético de Madrid, Liverpool, sera beaucoup plus compliqué.
L'Atlético.
Très vite, Fred, vas-y.
Très vite. Vu comment joue Valence, vu comment joue Séville ce soir, très bon match contre Grenade 2-0 avec une première période magnifique.
Ouais, pas sûr qu'il fasse top 4.
Real, Barça, Valence, Séville. L'Atlético, s'il continue dans cette logique-là,
il
n'est pas sûr d'être dans les 4 premiers de jouer.
Je peux me mouiller sur un truc tout court. J'adore les deux équipes, hein, mais j'ai bien peur qu'il y ait une possibilité que Atlético-Liverpool soit des matchs qui soient très chiants à regarder.
C'est possible.
L'Atlético sait faire des jouets, ça c'est clair.
Voilà.
Merci Fred.
Adios chicos.
Excellente soirée. Merci à toi. L'After Elle jusqu'à minuit. Simone Rovera arrive dans un instant, bien sûr. Et Paulo Breitner aussi. Tiens, on va commencer par Simone. On va commencer par Simone Rovera qui est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Bonjour, Simonet.
Voilà. Salut, Simonet.
Qu'est-ce qu'il est en forme, Simonet?
Quelle entrée légendaire.
Mais je vous écoutais vraiment, déjà parce que j'écoute toujours quand il y a Fredermel à l'antenne, donc c'est normal.
Ah bon, nous on pue, ouais, c'est ça. Ouais.
Vous avez dit une vérité, c'est que Atalanta-Valence va être la surprise des huitièmes de finale. Les matchs les plus intéressants, les matchs plus explosifs, les matchs où au début personne ne voulait voir, mais je sais que la soirée où il y a Atalanta-Valence...
19 février. Tu sais pourquoi je suis content, Simonet? C'est parce que ça fait des années que je te gave un peu avec, mais là, je pense que c'est l'année où Papou Gomez va éclater aux yeux de tout le monde sur la scène européenne.
Ok.
Josip Iličić, ce soir a été quelque chose de
7-0. Alors, j'avais pas prévu parler d'Atalanta parce qu'on en parle souvent, mais bon, là, on est un peu obligé de le faire.
Ah bah oui.
Déplacement sur le terrain du Torino pour l'Atalanta Bergame, dont on loue non seulement les résultats, mais aussi le fond de jeu.
Et l'entraîneur.
Et l'entraîneur, bien sûr. Victoire sur la pile 9e. 7-0. Doublé de Muriel, triplé d'Ilicic, Zapata et Gosens.
Mais comment c'est possible? 7-0, c'est énorme.
Quand t'as un coach qui a des idées, quand t'as un coach qui tire le meilleur de ses joueurs, voilà, ça fait ça.
C'est magnifique.
Non, mais attends, surtout qu'en face, t'as un coach, Mazzarri, qui est connu pour être plutôt défensif, qui défend très bien, qui jamais casse autant de buts. Mais là, je vous invite à regarder, à chercher n'importe où les buts. Il y a des chefs-d'œuvre. Mais vraiment.
Non, mais le match en entier, Simonet. Faut regarder le match en entier.
Moi, je vais regarder ce
match. Le match à l'entier, mais peut-être quelqu'un n'a pas les temps, c'est minuit presque. Donc, regardez que le but. Les premiers buts d'Ilicic, il y a une récupération de balles de Palomino qui c'est légendaire. C'est vraiment, c'est une tacle incroyable. Une défenseur qui se retrouve, je ne sais pas comment, à côté de la surface adverse, récupère un ballon et fait une passe décisive à l'attaquant. C'est extraordinaire. Les 4-0 d'Ilicic, c'est un coup franc battu en laissant Sirigu totalement surpris de 45 mètres, 50 mètres, ouais, une chose extraordinaire, un lob magnifique. Une petite pensée pour Sirigu qui a pris 7 buts. Et malheureusement, c'est pas la première fois dans sa vie. Il avait encaissé 7 buts dans une Palerme Udinese il y a beaucoup d'années, quand Alexis Sanchez avait fait un quadruplé, imaginez. Mais c'était une poème, une symphonie, je sais pas, c'était une chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre. Non, mais c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on aura soit Valence, soit l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Après, pourquoi pas, tout est possible. Ouais. Mais ce match-là, effectivement, le 19 février prochain, on a envie de le regarder.
À fond pour voir l'Atalanta, hein, parce que Gasperini, tout le monde lui a pensé que, tu vois, quand il était à l'Inter, tout le monde s'est un peu raillé parce que ça n'a pas marché l'Inter, mais c'est un putain de bon entraîneur, quoi. Franchement.
C'est simple, t'as le choix, là. Ce soir-là, le même soir, t'as Atalanta-Valence à 21h. 19 février et Tottenham Leipzig.
Atalanta Valence de loin. Atalanta Valence, il n'y a pas photo.
Ah, tu vois, il est plus Première Ligue.
Non, moi je vais voir l'Atalanta, c'est l'Ajax 2020. En tout cas, je l'espère pour eux.
Voilà, Simonet, la Juve demain joue face à un cancre. Joue face au Napoli. 27 points d'écart entre ces deux équipes. Est-ce que la Juve doit craindre le Napoli demain?
Une catastrophe, le Napoli.
Écoute, Naples, c'est une ville spéciale dans le foot italien. C'est une ville incroyable. C'est une ville qui vit pour le football. Et cette victoire en quart de finale des Coupes d'Italie face à la Lazio qui était énormément lancée, je ne dis pas qu'il va être une révolution. Mais est-ce que ce n'est pas été l'étincelle qui peut apporter quelque chose de nouveau pour le match de demain soir? Et si demain soir, Napoli, ça n'arrivera pas parce que la Juve est supérieure, mais si demain soir, Napoli sort de ce match avec un bon résultat face à la Juve, je peux vous dire que pour l'enthousiasme qu'est capable de faire vivre cette équipe, à cette ville, à ces stades, et tous ensemble, est-ce que ça peut être le nouveau départ d'une saison? Oui. Après, j'y crois pas. Vraiment. Ouais. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est dans les meilleurs moments de sa aventure italienne, parce que la Juve est en train de trouver une solidité, parce que la Juve a retrouvé celui qui, pour moi, va être l'homme de la deuxième partie des saisons, qui est Rodrigo Betancourt, milieu de terrain, qui progresse semaine après semaine. Là, il rentre après trois
semaines. C'est incroyable ce qu'il fait. Tu sais, Simonet, quand il arrive à la Juve, il arrive parce qu'en fait, quand Tevez retourne à Boca Junior, la Juve demande d'avoir une option de rachat automatique sur Betancourt. Et je t'assure que quand il part de Boca, beaucoup de gens se disent la Juve c'est des tarés parce que personne ne voyait, alors si des qualités techniques évidentes, si, mais beau, un mental très friable, voilà, pas la carrure pour faire ce qu'il fait en Europe, et c'est une vraie surprise de le voir à ce niveau-là.
Lui, il arrive un peu comme remplaçant, on peut dire, figure de Pjanic, c'est-à-dire celui qui doit jouer devant la défense. Là, il s'impose comme milieu relayeur du côté droit. Sarri l'a fait jouer parfois même numéro 10, un peu plus avancé.
Il peut.
De lui.
Il prend la place de Rabiot. Décisive.
Bah, Rabiot, aujourd'hui, pour moi, c'est le titulaire indiscutable à gauche. On verra demain. Très si bien. Demain, il est ça encore avance. Titulaire, ce serait son 8e match titulaire d'affilée. Ça serait sensationnel pour moi.
Attention, Kurzawa arrive.
Simone, justement, transition faite par Jonathan. Alors, on parle avec insistance, nous aussi, d'un échange de Chilio. Kurzawa, c'est quoi tes infos? Alors, Sarri a bien parlé aujourd'hui. Il n'a pas l'air enthousiaste à l'idée d'accueillir Kurzawa. En tout cas, il a dit, je ne le connais pas très bien.
il a fait comprendre qu'il a vu jouer à la télé. Après, il ne connaît pas l'homme, il ne connaît pas... Au-delà de ce qu'il a pu voir vraiment sur un match, il ne connaît pas les personnages, il ne connaît pas qu'est-ce que ça portait dans un groupe. Bah, après, ça, ouf, heureusement qu'il ne le connaît pas. Mais pour moi, pour parler de l'opération, pour moi, ça va se faire, il n'y a pas de doute. C'est une opération qui, à niveau comptable, est beaucoup plus importante qu'à niveau sportif. À niveau sportif, les deux clubs n'ont rien à perdre à faire cet échange.
Est-ce qu'ils ont gagné quand même Est-ce que le PSG a gagné là, de Chilio?
Les deux ont gagné. Hein. Non mais les deux ont gagné. Parce que c'est deux joueurs qu'il faut relancer.
Alors, les deux ont besoin de se relancer, je suis d'accord. La différence, c'est... Il n'y a même pas une énorme différence, parce que Deschilio, mais il y a beaucoup d'années, quand il était au Milan, au début de sa carrière,
très fort.
On considérait lui comme un joueur d'avenir. Après, c'est un peu perdu, mais il est toujours resté dans l'élite, un peu comme Kurzawa, qui, dans les années à Monaco, on considérait lui comme l'avenir au poste d'arrière-gauche dans l'équipe de France et pour la sélection, et pour le PSG, quand il est arrivé, on considérait
exactement
beaucoup. Les deux sont aujourd'hui dans une qui n'est pas fait pour eux. Ouais. Kurzawa a besoin de sortir de Paris, probablement, et Deschilio a besoin d'aller
c'est gagnant-gagnant,
dans un endroit plus pétillant.
Actuellement, il a besoin de sortir, Kurzawa, à Paris. Et...
Non, c'est fini, ça. C'était vrai un moment. Franchement.
Je pense que c'est chronique, mais.
Simone, merci. Arrive pour être le remplaçant de Alexandro. Il n'y aura pas énormément de pression sur lui. Et avec Sarri qui est très 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 strict sur la phase défensive, il a beaucoup à prendre. Et ça peut être bon pour la Juve.
Merci beaucoup Simone. Excellente soirée à toi.
Ciao,
bien sûr. L'after arrive, revient dans un instant. Simone, Jonathan Macardi, Kevin Diaz et Paulo Breitner qui est là. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
À ma droite, Jonathan Macardi, à ma gauche, Kevin Diaz. En face de moi, dans l'air, dans le ciel, sa voix va descendre sur le plateau de l'after. Paulo Breitner est avec nous.
Délivre-nous du mal, Paulo.
Bonsoir, Nico, je suis à ton extrême gauche.
Ouais, mais alors. Non, je veux pas dire.
Salut, Paulo.
Non, je veux pas. Non.
Bonsoir, tout le monde.
Ok, donc, pas mal de choses à. Il m'a fait dire. Dis-le. Non, mais j'allais parler de mes opinions politiques aussi, mais non, en fait, c'est pas mon rôle. Pas mon rôle.
On
les connaît.
Je n'ai rien dit.
Paulo, le Bayern. Alors, j'allais dire étincelant, je vais être très honnête avec toi, j'ai pas eu le temps de voir le match, parce qu'on était dans le multiplex de Ligue 1 notamment. Ce Bayern s'est imposé assez nettement, très nettement. Qu'est-ce qu'il y a à redire de ce match-là? Pas grand-chose, à part qu'on a retrouvé encore une fois un grand Thomas Müller.
Bah, Thomas Müller, depuis que Hansi Flick a été nommé, Thomas Müller a retrouvé sa place de titulaire et c'est quasiment le meilleur joueur à chaque match du Bayern Munich. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de la saison, je dis que Schalke 04 est un peu en sur-régime et d'ailleurs ce match-là, elle l'a prouvé, et notamment leur gardien Schubert qui a été très 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 plus que moyen pour ne pas dire mauvais.
Qui en a pris 5,
et surtout, c'est la meilleure performance du Bayern Munich depuis le début de la saison et de loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le relier au match du Hertha Berlin, c'est ce temps deux équipes, Schalke et le Hertha Berlin, qui sont sûrement les deux équipes les plus physiques de Bundesliga et qui c'est très compact, c'est un jeu très serré, etc. Où il manque un petit peu de talent. On sait que Schalke 04 a besoin d'investissement et ils sont pour moi un peu trop haut ce classement en ce moment. En tout cas, c'est une bonne surprise et les deux équipes ont finalement complètement explosé au bout d'un moment, ce que n'arrive pas à faire le club de Leipzig, par exemple. C'est intéressant parce que le Bayern commence à faire comprendre à Leipzig que s'ils veulent jouer dans la cour des grands, il va falloir week-end après week-end accumuler les points. Et là, le Bayern, je vois Thomas Müller qui envoie des pics à longueur de temps sur Leipzig, il sait très bien le faire. Lewandowski, évidemment, est à très bon niveau. Thiago est enfin en train de revenir, mais peut-être parce qu'il joue en 8 aujourd'hui, alors que Kimmich est revenu en 6. Toutes ces choses-là fait qu'il y a des blessés qui reviennent aussi. Donc, très peu de Français titulaires, seulement Pavard aujourd'hui. Et encore, ça risque d'être compliqué pour
lui. Il en est où, Lucas?
Lui, c'est pas avant en février. S'il arrive en mars, okay, ça sera déjà assez extraordinaire. N'oublions pas que ça risque d'être compliqué pour Pavard dans les prochaines semaines, puisque il y a le fameux Odrio Zola, vous savez, prêté par le Real Madrid. Flick vous a absolument un air droit, donc ça va devenir de plus en plus compliqué, j'ai le sentiment, pour les Français, y compris Kingsley Coman qui est encore blessé. Aujourd'hui, les joueurs en forme, c'est Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski, etc.
Polo Pavard, il a été pris pour la rotation, pour être
oui,
remplaçant.
C'est un couteau suisse. Ouais. C'est un couteau suisse, mais en fait, il y a eu tellement de blessés, il s'est passé tellement de choses depuis. N'oublions pas que le Bayern Munich joue sans sa défense centrale théorique.
Lucas
Hernandez et Zule. Donc, il a dépanné dans tous les sens, il était là, il peut jouer un peu partout, donc c'est utile.
Ah, ça sert beaucoup à un entraîneur, hein.
Ah, ben ça, moi, j'en suis intimement persuadé, mais ensuite, il faut voir s'il a vraiment progressé.
Non.
Moi, j'en suis pas persuadé. Il a commis énormément de boulettes. Alors, bien sûr, il met quelques buts de temps en temps, donc ça permet de masquer beaucoup de choses. Moi, je suis pas impressionné par Pavard, mais je l'étais pas non plus à Stuttgart. Donc, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est le Bayern Munich, la façon dont ils font exploser très très rapidement des équipes qui sont supposées jouer très serrées, très compactes entre eux et qui imposent physiquement. Et là, le Bayern est au-dessus.
Je suis content, Polo, de ce que tu nous dis, de savoir que le Ballon d'Or moral 2014 revient à son niveau. Tout le monde pensait qu'il était cramé, mais je reste persuadé que ça reste un très 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 grand joueur.
Ah, mais Thomas Müller,
c'est mon joueur préféré en activité, mais.
Le système faisant qu'un joueur comme Thomas Müller n'aura jamais le Ballon d'Or, puisqu'on favorise les performances individuelles à longueur de temps. Je voudrais pas revenir sur le cas Ribéry en 2013, mais c'est exactement la même chose. Thomas Müller est un joueur exceptionnel. C'est quelqu'un
qui aurait dû l'avoir en 2014.
Ouais, peut-être, mais moi c'est l'ensemble de sa carrière, ce que je vois et ce qu'il fait, parce qu'il est quand même très atypique dans le milieu des attaquants ou 9,5, mais en fait il peut jouer partout et surtout là à 30 ans, si tu veux, il n'avait pas fait grand chose depuis 2016, il est en train de revenir, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et surtout, juste une chose, les commentateurs en Allemagne sont en train de se dire que ce Bayern-là, donc on a beaucoup critiqué, l'oublions pas, les 6 premiers mois, notamment avec le départ forcé de Niko Kovac, par Thomas Müller notamment aussi, grâce à Thomas Müller notamment aussi, on est en train de le comparer à ce dit, mais c'est marrant dans ce Bayern qui est en train de revenir en deuxième partie de saison. Là, on sent qu'il y a du Jupp Heynckes dans cette équipe-là. Et comme par hasard, avec qui Hansi Flick discute souvent, c'est Jupp Heynckes, tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont en train de. J'ai pas envie de dire que le Bayern pourrait être la grande surprise de la deuxième partie de saison.
Il faut qu'ils récupèrent leur défense pour la Ligue des Champions.
Alors, on me dit, une source bien informée, une info Pavard, effectivement, on nous dit qu'il va jouer dans l'axe. C'est pour ça qu'on a recruté un arrière droit, un latéral droit au Bayern, Polo, non? C'est pas ça? C'est pour le remettre dans l'axe à terme.
Ouais, mais le problème, c'est que ça ferait à la bas Pavard, c'est un peu léger, je trouve. Boateng, il est là. On verra. Non, je dis pas qu'il va pas jouer, hein, mais le problème, c'est que de toute façon, il n'est pas dans le 11 titulaire au départ. Faut pas se leurrer.
Ça, c'est sûr. Le Bayern, alors, est-ce que le Bayern va dérouler en deuxième partie de saison? On sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient à un point du RB Leipzig. Tranquillement, mais sûrement, parce que le RB a perdu 1-0. C'est loin d'être infamant, hein, sur la pelouse de l'Eintracht.
Ouais, alors c'est pas infamant, parce que Francfort, c'est quand même 250 millions de budget cette saison. C'était 200 millions réalisés la dernière. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il faut faire des comparatifs. Francfort a changé complètement de système de jeu lors des matchs retour. Ils sont passés en une défense à 4, pareil à l'image de Schalke et d'autres équipes comme Wolfsburg, beaucoup plus solide. Et en fait, en première mi-temps, Leipzig a largement dominé le match, et notamment Nkunku était sûrement le meilleur Leipziger sur place et sur le terrain, et il ne marque pas. Et finalement, on a Francfort qui revient en seconde partie en seconde mi-temps et qui finalement commence à dérouler, marque un but, et là tu te rends compte finalement que Leipzig, ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à avoir leur niveau qu'ils avaient l'année dernière. N'oublions pas que c'est une fin de saison, c'est une fin de série de 9 matchs à la suite avec 3 buts minimum qu'ils ont mis à leurs adversaires.
Mais il y a un qui va les aider un peu, juste c'est quand même Olmo. C'est quand même sacré, mais il faut l'intégrer.
Mais c'est pas un problème d'effectif, encore une fois, c'est un problème mental. Nagelsmann a fait une des déclarations après match où il était en colère comme jamais je l'ai vu. Il a fait comprendre à ses joueurs, soit vous êtes des petits joueurs, soit vous êtes des grands joueurs. Moi, je veux le titre, en gros. Et si vous n'êtes pas capable, on va se mettre à une table tout de suite, on va discuter, on va boire de la bière, mais on finit les 4 premiers du championnat. Si c'est que ça qui vous suffit pour votre carrière, mm-hmm. c'est très bien. Moi, je veux le titre. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Il dit, parce que dans deux journées, il y a Bayern-Leipzig. Et donc, on est vraiment dans un coach qui veut le titre. Et il est juste en train de dire à ses joueurs, écoutez les gars, vous devez vous bouger un petit peu plus parce que là, c'est le Bayern en face. Donc, on peut y aller. Mais il va falloir. Et donc, il va éliminer au fur et à mesure. Hein, ça veut dire ça. Parce que le c'est compliqué, la concurrence à Leipzig. Et encore une fois, Nkunku titulaire à la place de Forsberg. Schick a été moyen. Timo Werner a tout raté alors qu'il mettait un doublé le week-end dernier. Non, on a une deuxième partie de saison qui s'annonce assez passionnante. J'en suis intimement persuadé.
Merci beaucoup.
Merci Polo.
Précision rapidement, tout à l'heure quand tu as dit à Torres, notre réalisateur, c'est l'humour, je te mets une gauche, je te l'envoie dans l'espace, c'est pas ça l'antenne.
Ciao.
Voilà, il n'y a pas d'agressivité, évidemment, c'est votre jeu.
Et Toto, c'est qui est quand même assez agressif.
Valise sur Direct Studio.
Mais Toto, il faut quand même dire que Toto est agressif. Hein.
Il y a une très bonne ambiance ici, on vous rassure. Merci Kevin.
Merci à vous.
À très vite, et puis merci Jonathan. À très
merci
vite
les
aussi.
Gars.
Bonne soirée à tous, l'after revient demain soir. Bye bye.
RMC. L'after foot.